Bonjour à tous. Il y a un auteur anglais qui a écrit que toutes les routes mènent à, Rome, à Londres. Je suis italien, alors je suis obligé de dire à Rome. À Londres. Et il écrit que toute la parole de Dieu mène à Jésus-Christ. Toute la parole. Ça me fait plaisir de revoir Benjamin et Mélodie, qui sont revenus des vacances. Ce n'est pas les derniers à partir. Il y a encore Rose et Jean-Paul qui doivent partir. Ça commence à se remplir l'église, les vacances se terminent. On voudrait être tout le temps en vacances. Moi, c'est mon désir. Souvent, avec mon épouse, on le dit, Abby, qu'on est... cette prépension, pension, pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Peut-être on n'aura jamais ça. On sera peut-être déjà parti. Que Dieu nous aide pour ce moment, cette matinée où on a pu louer le Seigneur, l'adorer et lui dire merci. La dernière fois que j'ai parlé... C'était dans 2 Chroniques, au chapitre 5, c'était les 14 premiers versets. Et je voudrais simplement faire une petite suite. C'est vrai que tout le monde n'était pas là pour entendre ce message, mais juste quelques petites paroles. Où on avait vu que l'arche de Dieu est entrée dans le temple. C'était le désir de Salomon. Nous avons vu que le temple était fini, mais il manquait quelque chose. Et cette chose était importante, c'était l'arche. Ce coffre en bois recouvert d'or où il y avait ces 2 tables de loi. La loi de Dieu. Et on avait vu que c'était la présence de Dieu. Et dans ce premier point où ce qu'on s'est arrêté, effectivement, on peut terminer beaucoup de choses dans notre vie. Notre carrière de travail, etc. Plein de choses. Mais si l'arche n'est pas dans notre vie, si la présence de Dieu n'est pas dans notre vie, ça peut être un beau bâtiment, mais il manque la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, c'est une vie qui est morte. Et le deuxième point où on s'est arrêté, c'était vraiment de réaliser que nous sommes la maison de Dieu et que nous vivons la gloire de Dieu. Voilà, c'était ces 2 points. Et ce matin, on va suivre ce qui s'est passé après. Mais là, je ne vais plus regarder dans Chronique, mais plutôt un roi. Ce sont quasiment les mêmes livres concernant Salomon, roi et chronique. L'auteur de chronique, nous ne savons pas c'est qui. Certains disent c'est quand même un grand, grand docteur. Et j'ai remarqué que certains spécialistes pensent que c'est Esdras. Mais on n'est pas sûr. Et l'accent est mis plus sur l'histoire du peuple de Dieu. Et un roi et 2 rois, ce sont toujours un livre. Hein. 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est toujours un livre. L'auteur, on ne le connaît pas non plus. Mais certains spécialistes se penchent vers Esdras ou Ézéchiel. Et l'accent est plutôt sur les rois d'Israël et de Juda. Alors pourquoi j'ai choisi un roi? Parce qu'il y a des petits détails de Salomon. Je vous donne un exemple. On est parti en vacances, ma femme, mes enfants et moi-même. De retour, certainement, on va parler de nos vacances. Si je parle de mes vacances, je vais dire qu'il y avait une piscine. Et ma femme va peut-être mettre plus l'accent sur le carrelage de la piscine. Et mes enfants vont peut-être plus parler de la température de la piscine. Mais c'est toujours concernant la piscine. Je donne un autre exemple, ma femme va parler plus de la nourriture, moi je vais parler plus du vin. Et mes enfants plus de l'apéritif. Un dernier exemple. On va parler plus la crème qu'on a mangée. Certainement, Myriam va mettre le point avec le chocolat. Et mes enfants, plus sur la crème fraîche. Et moi, je veux mettre plus... Vous savez quoi? J'allais tomber. Et ça, c'est une longue histoire de raconter ce matin. Et roi, un roi, on voit que l'auteur met plus l'accent de cette prière de Salomon. Salomon, en voyant cette nuée quand l'arche est rentrée, où les sacrificateurs allaient faire les sacrifices, il y avait une nuée. Impossible de rester. Il y avait la gloire de Dieu. Et Salomon, quand il voit cela, il se place devant cet autel et il va prier. Dans ce chapitre 8. Et j'ai remarqué, et vous allez certainement le remarquer si vous lisez tout ce chapitre, il y a au moins 9 sujets de prière. Et j'ai commencé à regarder ces 9 sujets que je dis, stop, Gino, ça va faire 9 points. 9 points. Et j'ai pensé à ce frère Rav Chaliste, un homme de Dieu au sud de la France. Il est dit qu'il a fait une petite erreur. Il avait donné un séminaire pour des jeunes dans une cité banlieue. Et il commence un samedi matin en disant « J'ai 15 points à vous dire ce matin. » Les jeunes sont partis quand ils ont entendu 15 points. Alors, je me suis dit, Gino, si tu dis 9 points, tout le monde va partir. Ce matin, il y aura seulement un point. Vous allez tous rester. C'est concernant la prière de Salomon, simplement son premier sujet. On va le lire après. Une fois qu'il a fini cette prière, au chapitre 9, il est dit que l'Éternel est apparu à Salomon pour la deuxième fois. Et il lui dit, l'Éternel, j'ai écouté ta prière. On l'a dit ce matin, que Dieu écoute la prière. J'ai entendu la supplication. Et Dieu lui dit, je consacre cette maison que tu as bâti pour y mettre à jamais mon nom. Écoutez la suite. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur sur cette maison. Mes yeux et mon cœur. Mais il y a une suite. L'Éternel lui dit, « Et toi, Salomon, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père, David. » Là, j'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite. « Comme a marché ton père. » Il y a beaucoup de papas ici. Combien on doit donner exemple à nos enfants? Ce n'est pas parce que je suis là devant vous que je suis le meilleur papa. Loin de là. Combien je dois apprendre et apprendre. Les enfants voient tout des papas. Quand on est hypocrite, ils le voient aussi. Et combien je voudrais ressembler à David. Et il dit... avec sincérité de cœur et avec droiture. et l'achève, en faisant ce que je t'ai commandé, tu observes mes lois et mes ordonnances. Bien sûr, il achève, mais c'est ça, je voulais m'arrêter ce matin. Il lui dit, regarde ton papa, comment il a marché, et observe mes lois et mes ordonnances. Marche en ma présence. J'entends souvent, et je le dis moi-même, combien de fois on dit, Seigneur, que je fasse ta volonté. C'est pas votre prière aussi? Ici, marche en ma présence. Il nous donne la clé de la volonté de Dieu. C'est obéir à Dieu. La volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Et voilà que Salomon demande son premier sujet de prière. On va le lire. C'est un roi au chapitre 8 et on va lire ces deux versets, versets 28 et 29. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que tes yeux soient nuit et jour ouvert sur cette maison. Et on a vu que l'Éternel répond à sa prière. Il lui dit, oui, mes yeux vont être là pour regarder cette maison. Mais il met quelque chose en plus, l'Éternel. Il dit, mon cœur aussi. Vous voyez que l'Éternel écoute notre prière, mais il rajoute toujours quelque chose en plus de ce qu'on nous demandons. Il met son cœur. Voilà que la présence de Dieu est dans le temple, par l'arche. Ça va commencer maintenant, l'histoire des attaques de l'adversaire. Il va attaquer ce temple. Et comment il va attaquer ce temple? Mais tout simplement, il va attaquer Salomon. Et comment il va l'attaquer? Mais tout simplement par la séduction à Salomon. Il est dit que Salomon a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Des femmes, il est dit, des femmes païennes, qui veut dire qu'ils n'avaient pas le même Dieu que Salomon. Et c'est pourquoi on encourage toujours un chrétien de prendre une chrétienne de prendre un chrétien. Ce n'est pas question de raciste, loin de là, mais c'est question qu'on veut servir le même Dieu. Tous les deux, on a le même Dieu, on va prier ensemble, on va servir Dieu ensemble. On a un seul objectif, c'est vivre pour Dieu. Et Salomon commence à être idolâtre à cause de ses femmes. Néhémie au chapitre 13, il est dit au verset 26, « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. » Et la suite, il dit, néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Dans le péché. Salomon n'abandonne pas Dieu. Non. Mais son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Il voulait vivre une vie comme tous les autres rois de la terre. Mais en faisant cela, il a désobéi à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cet homme était rempli de sagesse. Et il s'est fait avoir. Il s'est fait séduire. Un homme, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivent à sa cheville. Et il s'est fait avoir. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, quelle application qu'on peut tirer sur ce message, sur cette lecture? Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais ces choses sont écrites pour nous aujourd'hui. Ce sont vraiment un miroir pour nous, pour notre vie. Une fois que nous avons cru à Dieu, que nous sommes passés par cette repentance, qu'on regrette de ce qu'on a fait, et on s'est tourné vers Jésus et le suivre, qui est la conversion, ça va commencer les attaques. Les attaques vont commencer. Un homme qui s'appelle, que je suis en train de lire, et j'ai terminé hier ce livre de Richard, un Anglais du 16e siècle, qui nous dit comment préparer une prédication. Il écrit que alentour de nous, il y a plein d'ennemis. Qui veut pas dire, ils sont là pour te faire mal, mais ils sont là pour te faire trébucher, pour t'éloigner de Dieu. Satan n'est pas seul, il est le prince d'une armée d'anges déchus. Satan sait quand et comment nous tenter. Même le meilleur chrétien, même le meilleur enfant de Dieu, et on peut voir ça pour Salomon, rempli de sagesse. Le diable est capable de se faire passer pour Dieu en se déguisant en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Un autre auteur du 16e siècle aussi, William, il écrit « Aucune actrice n'a autant de robes pour monter en scène que le diable n'a de forme de tentation. » Satan se couvre de sa plus belle robe pour attaquer. Sa plus belle robe. Il avait un fruit pour Ève et Adam. Il avait du vin pour Noé. Il avait 700 femmes et 300 concubines pour Salomon. Il avait 30 pièces d'argent pour Judas. Et pour toi, qu'y a-t-il en réserve? Nous devrons prendre au sérieux les attaques de Satan. C'est pourquoi Jésus va donner cet enseignement de la prière dans Matthieu chapitre 13, qu'il est dit, mais délivre-nous du malin. Les attaques de Satan ont beaucoup de formes pour nous faire tomber. Ici, j'ai marqué la séduction parce qu'on a vu ça. Il y a le confort et la persécution. Dans la séduction, on voit dans le livre de Job, au chapitre 31, au verset 1, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je ne vais pas retirer ce verset de son contexte. Il dit cela parce qu'il est attaqué par ses amis. Ses amis croyaient qu'il avait péché, qu'il est dans cet état-là. Et Salomon dit qu'il ne s'est pas arrêté sur une vierge. Salomon devait prendre exemple sur ce récit de Job, mais peut-être que Salomon ne connaissait pas ce récit. Où j'ai vu quelques spécialistes disent que c'est peut-être Salomon qui a écrit cela, ou Moïse, ou Isaïe, ou d'autres. Mais même s'ils ne connaissaient pas ce récit, n'oubliez pas que dans le temple, il avait la loi de Dieu. Et nous les hommes, comment nous regardons les femmes? Je ne vais pas parler de vous, de moi. Comment je regarde les femmes? Ce sont des chiffres de 2014. Et peut-être pas juste ces chiffres, parce qu'ils ont fait un sondage sur, je crois que j'ai entendu, sur 600 personnes. Il y avait 80% d'hommes qui regardent les femmes, mais ils regardent autrement les femmes. Vous les femmes, pas ici à Jumet. Il est dit que ces chiffres sont de 35%. Comment nous regardons les hommes? J'ai remarqué quelque chose avec le tout petit peu d'expérience que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Tout petit peu. J'ai remarqué qu'un jeune converti, homme ou femme, qui est célibataire, il passe par la conversion directement. La femme lui tombe, en quelque sorte, du ciel. Ou l'homme tombe du ciel pour cette femme, directement après la conversion. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème. Tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est normal, je dirais. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant à la conversion? Et que je remarque, après cette conversion, on ne les voit plus. Combien mon cœur est triste de voir ces choses. La séduction est vraiment réelle. Elle est là. À nous de faire attention. Le confort. Satan est très fin. C'est pour ça qu'on l'appelle qu'il est malin. On veut de plus en plus de plaisir et de loisir. Salomon voulait faire comme tous les autres rois. Et le monde veut faire comme tous les autres hommes et femmes. Avoir de plus en plus de loisirs et de plaisirs. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour cela. Mais pourquoi? Plus que ça, de loisirs et de plaisirs. Qu'il n'y a même plus de temps pour s'engager pour l'Église. Tellement qu'on a plus de plaisir et de loisirs. Il n'y a plus de temps pour s'investir dans l'Église. Satan veut nous faire dégoûter de l'Église pour qu'on puisse rester le dimanche matin à la maison. Le confort. On va faire une belle petite balade. On va faire une petite course ou l'autre le dimanche. Il n'y a pas de souci. Mais si ça reste que le dimanche, là devient un problème. Ce confort nous écarte du chemin de l'Éternel. La persécution. Dans les quatre évangiles, on voit que Jésus a été tout le temps persécuté. Et Jésus, sur la croix, a été encore persécuté. La foule, ainsi même les pharisiens, lui disaient, « Si tu es le Fils de Dieu, ben descends. » Si j'étais Jésus, je ne le suis pas. Je connais mon cœur. Je serais descendu pour dire, « Regarde, c'est vrai !» Mais heureusement que Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il avait l'obéissance au Père. Il a été jusqu'au bout. Et dans la persécution, on a envie de répondre. Combien de fois je vois des choses qui ne sont pas normales là où je travaille. Et j'ai envie de répondre. Que parfois, je passe au-dessus, mais parfois, je le dis. Et après, je regrette. Je ne suis pas le meilleur. C'est pas parce que je suis là devant vous. Il y a des faillites aussi. Et combien je dois revenir à la croix dans la persécution. Salomon avait oublié de crier vers Dieu. Dieu avait dit, je mettrai mes yeux et mon cœur sur cette maison. Mais tu dois accomplir cette prière par l'obéissance. Notre prière doit tout le temps accomplir par l'obéissance. On dit des choses dans nos prières, mais après on ne le réalise pas. Combien ce que nous demandons, on doit l'accomplir par l'obéissance. Conclusion. Satan nous pousse à croire que les plans de Dieu pour nous sont mauvais et ont pour but de nous priver de joie. Combien c'est faux. C'est faux. Il crie à nos oreilles, obéir, c'est trop dur pour toi. Et puis, tu n'y arriveras pas. C'est faux. Dans le psaume au chapitre 19, au verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. C'est David qui a écrit cela, le papa de Salomon. Cet homme a commis l'adultère. Un enfant avec cette femme qui n'était pas sa femme. Il tue le mari. Un meurtre. Mais Salomon est passé par la repentance. La repentance. Salomon doit passer par la repentance. Luther nous dit que notre vie est une vie de repentance. Et je le remarque. Combien on doit passer par la repentance. On pense que Satan a la même force que Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, nous devrons prendre au sérieux la victoire du Christ sur Satan. Il l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Jésus, notre Seigneur, est victorieux. Connaître l'ennemi, c'est connaître le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur. Satan est vide. Il ne possède rien du tout. Il nous fait croire qu'il possède beaucoup de choses, mais il ne possède rien du tout. Tout appartient à Dieu. Hommes et femmes également. Oui, des femmes et des hommes ressemblent à Satan. Mais tout appartient à Dieu. Il est le créateur de l'homme et de la femme. Et je termine. Une chose qui est importante dans notre vie. On ne doit pas vivre contre Satan, mais plutôt vivre pour Dieu. On ne doit pas vivre contre Satan, mais plutôt vivre pour Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu a ses yeux fixés sur toi et sur moi. Pas rien que ses yeux, mais son cœur. Nous savons que nous avons un Dieu qui nous sauve. Alors à nous de lui faire confiance, en Jésus-Christ, lui faire confiance. Nous savons que c'est un Dieu qui nous pardonne. Alors venons à la croix et déposons, et on dépose notre péché et nous repartons avec la justice du Christ. Nous savons que c'est un Dieu qui nous guide pour notre joie. Alors, à nous de obéir joyeusement à ses commandements. La loi de Dieu habite dans notre cœur. À moi de le vivre. Que Dieu nous aide durant cette semaine. Amen.